Bonsoir à tous et bienvenue à ce 30e épisode de la saison 2 du podcast À la coupe qui vous est présenté par la microbrasserie Le Caveau des Trois Pistoles pour votre bière hockey. N'oubliez pas de penser à la bière La Montminou à la coupe. Je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes, c'est pas compliqué, le nom est À la coupe partout, que ce soit sur Instagram, sur Twitter, sur Spotify, sur YouTube, sur Facebook où vous êtes en ce moment, sur TikTok, toujours au nom de À la coupe. Également à tous les mardis midi, nous avons la notif des sportifs animée par Loric Salvaille, il fait une revue de l'actualité au niveau hockey international et au niveau de la LNH. Alors, c'est une actualité qui est à suivre à tous les mardis midi. Et puis sinon, ben, vous pouvez à tous les jeudis retrouver le podcast À la coupe qui est animé par moi-même. Alors, sans plus attendre, aujourd'hui, on a quand même plusieurs sujets à toucher. Bien entendu, vous l'avez suivi au niveau du hockey québécois. Les Remparts de Québec sont champions de la Coupe Mémorial. On va en toucher un mot. On va également parler de la finale de la Coupe Stanley. Et il pourrait peut-être qu'on jase avec quelqu'un de mystérieux en fin de show. En tout cas, ça, c'est quelque chose qu'on va voir. Pour l'instant, on va faire entrer immédiatement notre collaborateur aujourd'hui, Sam. Comment ça va?
Salut, ça va bien, toi?
Oui, ça va très bien, mon cher Sam. Là, on peut le dire haut et fort, tu es de la région de Québec.
Yes.
Franchement, méchant party.
Méchant party, mais méchante belle saison. Il y a une partie de la saison des Remparts. À un moment donné, on se disait, ouh, ça va pas bien. On a commencé à dire, ah, c'est les Remparts des dernières années qui choke. Ou finalement, parcours presque parfait pour vrai en série. Deux défaites en finale seulement. Puis Akumura, une défaite, mais dans un match qui voulait absolument rien dire. Ça a été une domination complète des Remparts de Québec, autant au niveau de la LHMQ qu'à la Coupe Memorial, selon moi. Je pense que si le match contre les Pits aurait voulu dire de quoi, je pense que les Pits seraient fait déclasser complètement. Mais sérieusement, je suis vraiment fier, vraiment content pour Patrick Roy aussi qui finit son parcours de coach avec les Remparts d'une belle façon. Puis aussi beaucoup de joueurs, déjà, je sais qu'on va en parler tantôt, mais beaucoup de joueurs des Remparts qui sont déjà plus de l'organisation des Remparts, sont déjà échangés pour l'an prochain, mais je suis vraiment content pour toute l'organisation des Remparts. Ils ont travaillé vraiment fort, ça a valu la peine, puis les résultats sont là. Fait que les champions, la LHMQ est champion pour la 4e année consécutive. Faut pas le. C'est pas à négliger, là. On n'arrête pas de dire que la LHMQ, c'est pas une bonne ligue et on est critique, mais. Ça reste que quatre dernières années, on est champion de la Coupe Memorial. Fait que c'est vraiment le fun, puis il faut être fier.
Si, mettons, on met de côté un peu le côté hockey, mais qu'on parle juste de la fête, j'imagine qu'à Québec, ça a fêté fort.
Ben, c'est sûr que moi, je suis pas de Québec. Là, je suis à 45 minutes dans la région, mais si j'ai vu des photos de. Tu sais, il y avait comme un party, genre, dehors. À la finale, la game était diffusée sur l'écran du Centre Vidéotron dehors, à la place Jean-Béliveau. Puis il y avait beaucoup de monde, sérieusement. Pour une équipe junior, on voit pas ça des rassemblements de même. On voit ça dans le national, mais pour une équipe junior, de voir ça, c'est beau. Puis il y a comme une mini-parade aussi au Centre Vidéotron, puis il y avait beaucoup de gens. Tu sais, on parle d'une équipe junior, là. On parle pas d'une équipe de sport professionnel. Puis c'est l'équipe les Remparts, c'est vraiment l'équipe de Québec, là. C'est du hockey, premièrement, les gens de Québec sont passionnés. Puis ça fait du bien parce que ça faisait un bout qu'on n'avait pas vu ça, là, les Remparts bons. Je pense en 2015 à Coupe Memorial qui avait été assez compétitif. Là. Puis l'an passé, ça avait tellement mal fini en demi-finale, l'élimination qui est hâtive quand même. Puis là, il revient sensiblement avec la même équipe que l'an passé, mais les gars sont ressaisis. Mais oui, il y a eu un party. Au Centre Vidéotron.
Je tiens juste à souligner là, rapidement aussi une entrevue exclusive sur alacoupe.ca. On a rencontré un des gagnants de la Coupe Mémorial, Thomas Darcy. L'entrevue est disponible sur alacoupe.ca. C'est un petit délice si jamais vous avez la chance d'aller le voir. On a quelqu'un qui te passe le bonjour, mon cher Sam. Alors,
bon, salut Ben!
Alors, sans plus attendre, on va y aller avec maintenant notre collaborateur pour ce qui est de la LHJMQ, mais aussi de la Ligue canadienne, Frédéric Knight, qui est avec nous. Frédéric, comment ça va?
Salut, ça va bien, vous autres, les gars?
Yes, sir.
Yes.
Alors, je tiens à souligner que vous l'aviez prédit, les Remparts l'ont remporté. Frédéric, une finale qui a été un peu one-way, je dirais.
Ouais, je pense que... Ben, je m'attendais à ce que les Thunderbirds mettent... je m'attendais à ce que les Thunderbirds sortent plus fortes, là. Ils sortent plus forts en ce moment, parce que là, les Remparts les avaient battus. Je m'attendais à ce que les Thunderbirds l'emportent ce match. J'avais dit qu'ils allaient prendre leur revanche puis qu'ils allaient battre les Remparts. J'ai aucune rancune contre les Remparts, là, mais c'est que je m'attendais à ce que ce soit un bon match, mais que William Rousseau sorte un jeu blanc en finale de la Coupe Memorial pour
quand même. Puis sinon, ben, on n'a pas le choix. Il faut qu'on parle quand même de Malatesta. Là. Je veux dire, il a remporté le meilleur joueur en séries éliminatoires dans la LHJMQ et à la Coupe Memorial.
Ouais.
Solide, le jeune.
Ben, écoute, je pense que Sam l'avait prévu aussi. Là. C'était notre MVP si les Remparts gagnaient. J'aurais aimé que ce soit William Rousseau avec le jeu blanc qu'il a fait, mais est-ce que le match numéro 3 que... quand ils l'ont mis dans les buts pour un deuxième match de suite, l'a affecté sur son MVP? Je pense pas, là, mais... T'sais, chapeau à Malatesta, des séries, une saison incroyable. Écoute, ce gars-là, pour moi, ça, j'espère qu'il fasse la Ligue nationale. J'espère, parce qu'avec la saison qu'il y a eu, là, wow.
Puis si tu y vas du côté des Thunderbirds, là, méga déception, là, t'es un fan des Thunderbirds, tu t'attendais à quelque chose de plus solide. C'est quoi les points faibles, selon toi?
Dylan Gunter, pour vrai. Je l'ai dit la semaine passée, mais... Quelle déception, c'est comme, tu sais, même le gardien Thomas Milic, c'était un excellent gardien de but, c'est, écoute, il était solide durant le tournoi, mais souvent, quand l'équipe suit pas, il peut pas rien faire. Mais Dylan Gunter, excuse-moi, mais pour un champion de la médaille d'or en championnat du monde junior, t'es où? Tu fais quoi? Je comprends que les Coyotes ont bien espoir en ce choix-là, mais pour moi, il n'y a rien prouvé qu'ils étaient prêts à faire la Ligue nationale. Je vais pas. Je vais haut, là, mais quand même.
OK. Bon, c'est pas très optimiste pour moi, mais ceci étant dit, je vais vivre avec. Là,
j'allais dire la même chose pour vrai. La déception du tournoi, c'est Dylan Gunter, mais je pense pas qu'on peut se baser sur 5 matchs dans un tournoi pour dire que il est pas prêt et tout, mais son attitude aussi, pas juste ses performances, son attitude, il a pas eu de pénalité pour double échec d'en face à un joueur qui restait 4 minutes. La game était probablement finie, mais ça reste que il y a peut-être une mini-chance de faire un comeback historique, mais là, il a tout bousillé, puis à poignée de main, on le voyait, là, il disait même pas un mot, genre même pas un good job, ou genre il serrait en main crissement vite, genre tu voyais qu'il était, je comprends, c'est normal d'être déçu, mais tu peux quand même féliciter ton adversaire d'une manière civilisée. Puis je trouve qu'il l'échappe un peu là-dessus, mais le gars est encore jeune. Il a quoi? Il a 19 ans, là, 20 ans. Fait que je pense que moi, c'est un gars que j'aime bien, mais là-dessus, il m'a déçu. Puis si on peut revenir à Malatesta, ben, comme Fred, il espère qu'il fasse un national. Ben moi, c'est sûr que j'espère qu'il va faire un national parce que c'est un joueur qui a passé un Blue Jackets, qui a signé son contrat d'entrée justement. Fait que l'année prochaine, il va être avec les Monsters de Cleveland. Mais moi, c'est un gars que je voyais pas vraiment faire un national des deux premières années que je jouais avec les Remparts. Là. Puis cette année, ça a vraiment été un step-up. Là. Le gars, son coup de patin s'est amélioré. Il a joué physique, mais on savait que c'était un marqueur, ça, c'était indéniable, mais le reste, on dirait qu'il a comme tout rassemblé ça ensemble, puis là, tout le monde parle de lui, puis je pense que les Blue Jackets l'ont vu, bien, c'est sûr qu'ils l'ont vu ce qu'il a fait, là. Fait que j'ai vraiment hâte de voir comment il va s'adapter à la Ligue américaine, parce que ça, c'est un autre step, mais sérieusement, je suis vraiment content d'avoir pu admirer un joueur qui est repêché par mon équipe de si près, de l'avoir vu jouer en vrai, c'est quelque chose qui est le fun, puis pour Gunter, Yves, moi, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet tant que ça. Le lancer est là. Par contre, il va falloir qu'il travaille un peu sur lui-même puis sur quelques facettes. Mais je suis confiant pareil pour Dylan Gunter.
Puis si, mettons, on reste dans la thématique des Coyotes, là, l'Anglois, ça a comment été, lui?
Ben, pour moi, l'Anglois, il va falloir que les Coyotes fassent... Parce que, tu sais, on a Maverick Lamoureux aussi à Drummondville, qui est un grand défenseur pour l'équipe, là, mais... T'sais, les Coyotes, quasiment comme Anaheim, là, ils ont des bons espoirs en défensive, mais l'Anglois, il a vraiment prouvé qu'il était solide, qu'il pouvait faire confiance autant défensivement qu'offensivement. C'était le meilleur défenseur, pour moi, de la Coupe Memorial pour les Remparts. Là. Komarov et Nau, c'est des bons défenseurs, mais l'Anglois, il est un peu plus vieux que ces gars-là, puis il a vraiment prouvé pourquoi c'était un des leaders de l'équipe. Là.
Ah ben merci, ça me fait du bien d'entendre ça.
Ben, je suis d'accord. Moi, je pense qu'il peut être un bon cinquième défenseur dans la nationale. Je pense pas qu'il va runner à powerplay. Parce que, tu sais, oui, Junior, il pouvait le runner, mais l'initiale, c'est une autre affaire. Je pense qu'il va pouvoir jouer à des avantages numériques. Je pense que c'est un gars qui a un IQ hockey quand même assez intéressant. Mais je le vois pas dans un top 4 NHL, mais je le vois dans un top 4, mettons, d'une équipe contender qui est capable de compétitionner. Mais mettons, 5-6e défenseur à avec les Coyotes ou une autre équipe, je le vois être dans une équipe, dans un top 6, le régulier national, parce qu'il y a le IQ hockey, puis ça, c'est la chose la plus importante selon moi, qu'il faut que tu ailles en partant dans ta joueur de hockey, c'est un IQ hockey, puis si tu l'as, le reste, tu peux t'améliorer plus facilement.
Honnêtement, j'aime ce que vous dites, parce que Bill Armstrong, lui, il parlait avec André Tourigny, puis justement, ils veulent focusser sur les défenseurs, parce qu'ils considèrent qu'en ce moment, ils ont des lacunes. Fait que, tant mieux s'ils ont des jeunes qui poussent, c'est tant mieux. Je veux parler aussi de Rousseau, quand même, un blanchissage, un match qui était très haut en termes d'émotion. C'est un jeune qui il a fait plus que sa marque, là.
Oui, écoute, il a démontré que c'est un gardien. Je suis déçu un peu parce qu'il n'est pas repêché. Mais il y a une équipe de Ligue nationale pour moi qui va faire un vol. Là. Pour vrai, c'est un gardien qui est solide. Il monte en confiance avec les années. On l'a vu à chaque année, Rousseau il s'améliorait de plus en plus. Puis l'année prochaine, écoute, on va en parler dans pas long, là, mais je veux dire, il peut faire un back-to-back en gagnant encore la Coupe l'année prochaine avec les Huskies. Là. Fait que, pour vrai, William Rousseau, j'espère qu'il va faire la Ligue nationale un jour, mais moi, je dis que la Ligue américaine,
c'est faisable.
C'est faisable pour lui. Là, pour vrai, je pense que ça va être un gardien qui va faire les échelons une étape à la fois. Puis, pour moi, j'espère pour lui que son rêve va s'exaucer en faisant la Ligue nationale, mais on verra. Okay.
Ben, encore une fois, félicitations au Rempart parce que franchement, ça a été une saison et des séries de fous de leur côté.
Ouais.
Puis ramené pour une quatrième fois d'affilée la Coupe Mémoriale à la LHM. Good job, guys.
Si je peux mettre de quoi sur Rousseau, par contre, je sais qu'on a parlé de joueurs plus utiles. Mais selon moi, tu sais, j'aime bien Malatesta, mais selon moi, c'était William Rousseau qui méritait quand même le MVP de la Coupe Mémoriale. Des séries de la LHMQ, autre chose, mais la première game contre Seattle, c'est vraiment lui qui a volé la game. Puis. Malatesta a scoré quoi 4 buts dans le tournoi, dont un tour de chapeau, mais dans son tour de chapeau, c'est 2 passes de Justin Robida, magnifique. Il y avait juste à la mettre dedans. Fait que j'étais content de voir Malatesta, mais on l'a vu quand Malatesta a gagné le trophée. Il est allé voir Rousseau avant d'aller voir le trophée. Puis je pense qu'il a dit genre, je pense que c'est lui qui le méritait. Puis il est allé porter après, genre, il est allé vers lui, il a donné. Puis tu sais, les deux, ils ont le cheveu, mais moi, je pense que c'était Rousseau qui méritait plus que Malatesta, que je suis un fan de Malatesta. Rousseau, c'est vraiment le gardien, un des joueurs les plus importants des Remparts. Puis comme Fred dit, avec Wayne Rondeau l'année prochaine, il va avoir la chance de répéter tout ça. Puis je pense pas qu'il faut qu'il soit inquiet de ne pas être repêché parce que les gardiens de but, on le voit là. Tu sais, Bobrovsky, présentement en série, il est en finale de la Coupe, c'est le meilleur gardien de les séries à date. Jamais repêché. Adin Hill, je suis pas sûr qu'il ait déjà été repêché. Les équipes ne repêchent plus les gardiens hauts comme avant parce qu'il y en a tellement des bons qui sont sous le radar. Logan Thompson qui jouait dans une université canadienne qui a été goaler des Golden Knights cette année. Je pense que les équipes l'ont vu. Il a déjà fait un camp avec les Sénateurs, je pense, l'année passée. Fait que là, il va être invité à un autre camp puis ils vont lui dire anyway, un gardien, c'est pas avant 23 ans souvent que ça monte. Fait que William Rousseau va juste prendre du galon, va essayer de gagner encore, va jouer la Ligue américaine après, mais c'est sûr qu'une équipe de l'Ingénieur qui va y offrir un contrat, c'est sûr et certain. Puis s'il n'y en a pas, son gars. Bon, c'est dit.
je souligne un petit quelque chose, Sam. Adin Hill a été repêché par les Coyotes.
Bon. OK, mais c'est sûrement pas le premier rang. Tu me confirmes?
Troisième rang, c'est ça.
Mais le repêchage pour un gardien, c'est moins important qu'un joueur, je trouve, parce que c'est plus long à développer. Fait que, mais tu sais, je pense pas que William Rousseau est inquiet pour vrai. Là. Il n'a pas l'air d'un gars trop inquiet pour sa carrière.
Ben écoute, il y a probablement des opportunités, comme vous dites depuis tantôt, là, au niveau de
la. Ben c'est sûr qu'il y a des discussions, j'imagine, là, aussi. Là.
OK, maintenant, si on y va, parce qu'il y a eu beaucoup de transactions, ça a l'air, semble-t-il, beaucoup de transactions de choix, là, mais sinon, l'organisation des Huskies de Rouyn-Noranda, on y va peut-être all-in pour la saison prochaine?
Ouais, j'espère qu'ils ne font pas comme Gatineau qu'ils ont fait cette année. Là, parce que là, pour vrai, Rouyn-Noranda, en partant, moi je pensais qu'il allait donner ça à période des fêtes et qu'il aurait changé une couple de choix rendu à Noël. Mais ils ont été direct avant le repêchage. Puis déjà avec l'acquisition d'Antonin Véraud de Gatineau. Échanger un choix de première ronde avec un choix de deux choix de première ronde, excuse, avec un choix de deuxième ronde. Puis après ça, on a été chercher Jérémy Langlois. Jérémy Langlois, sais qu'il y a des rumeurs, là, mais je veux rien dire. Il y a des rumeurs qui circulent en disant qu'il ne sait pas s'il va vouloir aller au camp. En tout cas, c'est des rumeurs. Est-ce qu'il va y aller? Je ne sais pas. C'est juste des spéculations. J'espère pour moi que c'est pas une cause perdue. Là. Mais pour William Rousseau, je pense que c'est déjà confirmé. Là, ça va être le gardien, ça va être le joueur de la concession pour le Rwanda. Là. C'est
la saison prochaine.
Ouais. Okay. Okay.
Mais pour l'Anglois, je pense pas que ça a coûté si cher, justement. Je pense que c'est à cause que justement, il y avait un doute qu'il allait sûrement tourner pro l'année prochaine.
Ouais.
OK. Fait que ça diminue sa valeur, je veux pas, parce que t'es pas sûr de l'avoir.
Ouais, c'est sûr que c'était pas sûr de l'avoir.
Si ça va bien à Arizona, peut-être qu'ils vont lui offrir un contrat puis il va aller jouer dans la Ligue américaine. Mm-hmm. Ça, tout dépendait de comment ça va. Là.
OK. Ouais, ben ça tombe sous le sens. Ça a bien du sens. sinon, on a commencé un ménage déjà chez les Olympiques. C'était une équipe qui était contender cette année pourtant.
Ouais, écoute, un gros flop cette année. Là, mais il manquait Noah Warren. Pour vrai, c'était le manque. Là, pour vrai, là. Il manquait une pièce défensive aux Olympiques. Écoute, en ce moment, Antonin Vero parti à Rwanda. Charles-Antoine Pilote, grand défenseur du pied 3, parti à Val-d'Or. Puis, on a échangé aussi Olivier Boutin, qui a pris la direction d'Acadie Batters, puis qui a pris la direction de Moncton.
Il n'a pas resté longtemps.
Ouais, il n'a pas resté longtemps. Puis après ça, ben, on va avoir Zach Dean. Zach Dean, je pense qu'il va signer un contrat avec Saint-Louis si ce n'est pas déjà fait. Là. Je pense pas qu'il va revenir dans la LHGMQ cette année. Noah Warren, puis Tristan Luneau sont à Anaheim. Est-ce qu'ils vont signer un contrat cette année? Je pense pas. Luneau, les rumeurs qui disent qu'il l'envoie à Halifax. D'autres disent qu'il l'envoie à Victoriaville. J'ai hâte de voir. Halifax, si ça en va à Halifax, pour vrai, ça va être une grosse pièce pour Halifax, surtout avec la jeune équipe qu'ils ont eu cette année. Je sais qu'ils perdent trois joueurs de 20 ans importants. Mais pour Victoriaville, avoir Tristan Luneau en défensive avec des Frédéric Brunet, là, puis Nathan Darvaux, meilleur gardien de l'année dans la Ligue canadienne, là, ça va faire des dommages, je pense, pour les Tigres.
C'est des gros moves de ce côté-là. Sinon, as-tu des nouvelles d'Alexis Jandon? Es-tu encore là? Son stage est-tu fini?
Lui, selon des spéculations, je pense qu'ils vont lui offrir un contrat à Philadelphie.
Okay.
Pour Cam McDonald à Tampa Bay, c'est pas confirmé. Je pense pas qu'ils vont lui offrir un contrat cette année. Mais selon une couple de quelques rumeurs, Alexis Jandon, je pense qu'il va se mériter un contrat. Il y a eu une super belle saison pour vrai. Là. Puis si on lui offre pas de contrat, j'imagine qu'ils vont l'échanger, ça c'est sûr. Mais on n'a pas eu de nouvelles.
Pour l'instant, ils savent quoi, fait qu'ils font pas de move par rapport
à ça. C'est dur à dire, je pense que ça va se faire à Noël pour vrai. Là.
OK. Sinon, du côté de l'Océanique et du Drakkar, il y a eu beaucoup de mouvements aussi.
Ouais, ben comme on t'a cherché Justin Gill de Sherbrooke. Bonne acquisition pour Bécomo pour vrai. En allant aussi chercher Sean Pearson de Rimouski, je pense. Puis, ouais. Un gros bonhomme, mais je veux dire, Rimouski, sont en train de chercher des morceaux pour la coupe. Là. Je pense qu'au fur et à mesure, ils sont en train de bâtir une équipe. Là. Vincent Fillion, un bon gardien de but qui ont été cherchés de Moncton. Est-ce qu'au repêchage, parce qu'on a vu aussi le repêchage s'en vient demain, William Lasselle dans les buts, est-ce que c'est encore dans les plans de Rimouski? Je sais pas.
Il y a quelque chose d'autre.
Ouais, mais c'est ça. Tu vas chercher ils ont deux bons gardiens. Un gars de, je pense, c'est la République tchèque, puis un autre, Vincent Fillion, qui viennent juste d'aller chercher. Je verrais pas pourquoi il irait chercher un William Lassen dans les buts. À moins qu'il en échange un des deux. Là, mais...
Je suis peut-être perdu, mais Patrick Amla, qui tu parles?
Ouais, c'est ça.
Il s'en est pas en Europe, lui?
Ouais, il a signé avec Tampere. Je pense qu'il ouais, quitte. C'est dans la Ligue élite de Finlande.
Ok.
Il va quitter, il ne reviendra pas avec l'Océanique.
OK. Sinon, ben, tu as déjà parlé de Luneau. Fait qu'on, les Tigres, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter?
Ben, les Tigres ont été plutôt tranquilles pour une équipe que je pense que quelques personnes voyaient peut-être bâtir une équipe pour la Coupe. Nathan Darvaux qui a gagné le gardien de l'année. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Vont-ils aller à All-In cette année? Ou ils vont liquider? Ils n'ont pas fait de mouvement pour l'instant. pour cette année. On met pas de choix de première ronde, en plus, je pense, au repêchage. Fait que. C'est sympa.
OK. Puis sinon, Daigle est là.
Ouais, Daigle est là. C'est peut-être le temps de peut-être faire une reconstruction. Sinon, s'ils veulent aller all-in cette année, avec les Frédéric Brunet, puis s'ils vont chercher Luno à défense, ils vont bâtir quelque chose, mais je pense qu'ils n'ont pas assez de pièces offensives pour pouvoir aller all-in cette année. Fait que...
OK. Puis si on se déplace maintenant du côté de Drummondville, une grosse acquisition en Ethan Gauthier.
Oui, Ethan Gauthier qui s'en va rejoindre l'organisation avec son père.
Oui.
Je pense que tout le monde s'attendait à ce que ça en allait à Drummondville. Mais c'est une grosse acquisition de Drummondville avec les Mavericks Lamoureux à la défense, là, les Justin Côté. Ça peut faire des dommages en série. Par exemple, il manque quelques pièces à Drummondville. Drummondville doivent être actifs au repêchage ou à Noël s'ils veulent avoir la chance de gagner la Coupe cette année parce que là, tu viens d'ajouter une pièce comme Ethan Gauthier. En attaque, tu dois bâtir de quoi avec ça, là.
Tu peux pas avoir fait ce move-là avec aucune intention derrière, mettons.
C'est ça.
OK, je comprends très bien ton point. Alors, c'est le repêchage, comme tu l'as dit, demain, de la LHJMQ. Oui. C'est quelque chose qu'on va suivre avec beaucoup d'intérêt du côté du projet à la coupe, puisqu'on va avoir des représentants qui vont être sur place pour pouvoir rencontrer les gens et suivre ça. Toi, est-ce que tu fais partie de ceux qui vont écrire sur le repêchage ou toi, tu n'es pas disponible?
Moi, je vais être à la maison en train d'écrire. Fait que...
Et voilà, fait que c'est un rendez-vous sur le alacoupe.ca, entre autres Frédéric qui va nous parler du repêchage. C'est à quelle heure demain?
Je pense que c'est 7h, je pense. 7h30, je pense que j'ai vu. Je me souviens même plus.
Peut-être dans le champ, là, il me semble que c'était à 10h du matin.
vendredi matin à 10h.
Mais je me trompe peut-être, là, mais il me semble que c'était à 10h du matin de mémoire. Là.
Samedi, je pense que c'était à 10h.
Ah, ça se peut que je me trompe, là. Bon, écoute, rendu là. C'est un rendez-vous demain sur la coupe.ca. On va faire quand même le suivi de... OK, c'est samedi le repêchage, pour ça que tu me dis ça. C'est vendredi ou c'est samedi le repêchage? C'est samedi.
La première ronde, c'est... d'habitude, la première ronde, c'est toujours le vendredi.
OK.
Fait que la première à moins ronde, qu'ils ont fait un gros changement cette année, là, mais à chaque année, il y a la première ronde un vendredi puis le reste des rondes le lendemain matin.
OK, OK, OK. Fait qu'on suit ça sur la coupe.ca. Écoute, Frédéric, merci beaucoup.
Merci, les gars.
Puis je te souhaite une belle soirée.
Merci, Fred. Bye.
Niveau LNH maintenant, série finale plutôt décevante, on va se le dire. Deux méchantes varlopes qu'on a eues du côté de la Floride. Une défaite de 5-2 contre les Golden Knights et de 7-2. Pas très optimiste pour les Panthers.
Ouais, c'est sûr que ça n'a pas été les meilleurs matchs. Moi, c'est ce que j'avais peur de cette série-là, c'est que Vegas avait beaucoup plus de profondeur partout à l'attaque comme en défense. Puis que les Panthers avaient quand même eu presque 2 semaines sans jouer. Ça paraît, là. Ouais. Quand une équipe ne joue pas pendant un long moment. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont à domicile. Fait qu'on ne sait jamais, tu sais. Je pense pas que le score indique tant que la game non plus. Tu sais, 7-2, je veux dire, c'est quand même les Panthers qui avaient le plus de lancers. Beaucoup d'avantages numériques aux Golden Knights à des moments très importants. Qui en ont profité aussi. Fait que quand tu profites de tes occasions, à un moment donné, ça fait mal à l'adversaire. Puis quand tu manques des chances aussi, on se rappelle que Nick Cousin, dans le premier match, s'est fait voler par Adin Hill. Puis ça aurait été 2-1 pour les Panthers. Les Panthers avaient pris devant 1-0 dans le premier match. Et ça aurait fait 2-1 en début de deuxième. Ça aurait probablement tout changé. Mais ça a changé de l'autre bord. Un arrêt de même. C'est la même arrêt presque que Brendan Oldby contre les Golden Knights. C'est le même but. C'est dans le même but que c'est arrivé. Oldby, lui, a fait l'arrêt, puis les Capitals avaient gagné. Là, Adin Hill fait le même arrêt, puis là, il s'aligne pour gagner. Fait que je pense qu'il faut que tu fasses un arrêt spectaculaire avec le bâton pour gagner à Vegas.
Pour le record, là, on fait juste un peu. Là, c'est un arrêt, dans le fond, où Adin Hill était un peu sorti de sa cage, puis il s'est reviré de bord avec son bâton. Mm. Il a réussi à l'arrêter, dernière minute, là, in extremis. Mathieu Tkachuk, en même match, 2 inconduites, c'est... bien beau de vouloir brasser les choses, mais il y a quand même de la limite. Est-ce que la deuxième inconduite était méritée?
Ben, les deux inconduites n'étaient pas méritées, selon moi. Oh! La deuxième, ben, c'est à cause qu'il restait 4 minutes, je pense. La première, ça n'avait aucun sens. Hein. Je veux dire, le gars a mis une mise en échec légale à Jack Eichel en plein centre. C'était violent, mais c'était épaule à épaule. Puis là, il y a eu une escarmouche qui a donné 10 minutes à Mathieu Tkachuk. Mais ça, premièrement, c'est un mauvais appel des officiels. Puis ça prive les Panthers de leur meilleur joueur pendant 10 minutes pour absolument rien. Moi, je trouve que l'arbitrage dans cette série-là, il y a un avantage côté de Vegas. Là. Les calls sont collés d'un bord, ne sont pas collés de l'autre. Puis oui, à la fin, les Panthers ont des avantages numériques, mais c'est parce qu'un avantage numérique à 0-0 puis à 1-0, tandis qu'un avantage numérique à 6-1, c'est pas pareil. Il y en a plein qui disent « Ouais, mais les pénalités sont égales. » Ouais, mais il faut que tu regardes le moment où ce que les pénalités ont été décernées. Puis donner un 10 minutes à Mathieu Tkachuk pour une mise en échec légal, j'ai bien de la misère avec ça, pour vrai. Mais tu sais, c'est pas.
Aller plus loin. Attends, la mise en échec que tu parles, je veux souligner que je ne suis pas un fan de Jack Eichel, mais même Jack Eichel a dit lui-même que c'était une mise en échec qui était légale, puis que selon lui, il ne méritait pas du tout de pénalité sur le geste.
Ouais, exact. Puis quand le joueur qui reçoit le coup le dit, ça en dit long. C'est... Puis Jack Eichel, depuis qu'il est arrivé à San Vegas, il a vraiment maturé. c'est un joueur que j'aimais quand même beaucoup à Buffalo. J'avais un jet des sabres avec son nom en arrière. Mais je trouve que présentement, c'est une des raisons pourquoi Vegas sont aussi bons. Il fait partie de ça. Là. Oui, c'est une équipe, Marchessault, Barbashev, Mark Stone. Il joue en équipe, mais Jack Eichel est un gros, gros morceau de cette formation-là. Puis chapeau à lui parce qu'il s'est tellement fait écœuré. Il s'est fait dire que c'était pas un bon leader, c'était pas un joueur d'équipe. Mais il est en train de prouver le contraire à tout le monde. Puis il est en train de prouver qu'il va gagner une Coupe Stanley avec Connor McDavid. Fait que c'est quand même chapeau à lui. C'est pas encore fait. Mais selon moi, les Golden Knights vont remporter. Ça me surprendrait qu'ils perdent 4 matchs en 5 rencontres. Il reste 5 rencontres maximum, mettons. Ça me surprendrait beaucoup. Mais tout est possible.
Pas moi non plus. Là.
Je l'espère. Sinon,
j'ai les statistiques de Bobrovsky, mais let's be honest, là, c'est 826 d'efficacité. Lyon, c'est 800. Moi, ce que je remarque, c'est que les Golden Knights bloquent plus de tirs que les Panthers. Puis le devant de l'enclave est beaucoup plus hermétique du côté de Vegas qu'il est du côté de la Floride. En quelque part, Bobrovsky, il a beau être bon, mais c'est pas un sauveur non plus.
Ouais, mais Bobrovsky, il n'y a pas de but qui peut faire de grand-chose. Je veux dire, il n'y a pas de mauvais but. J'apporte un bémol, c'est 1-0 pour les Panthers, finalement. Brandon Montour vient de marquer. C'est 1-0. Puis lui, si j'allais le nommer, là, il fait partie aussi des joueurs qui ne sont pas présentés vraiment en finale. Puis Brandon Montour, les Panthers, ils ne sont pas là parce qu'ils ont une équipe complète puis qui joue 4 trios puis qui joue 6 défenseurs. Ils sont là parce que Montour, Tkachuk, Bobrovsky, Barkov jouent du gros, gros hockey. Ouais. Fait que Montour n'avait pas le choix de step up. Là, c'est 1-0. Qui sait si le momentum pourrait virer de bord dans la série. Mais pour revenir à Bobrovsky, t'as raison. Il ne peut pas faire tout seul. Il ne peut pas faire de miracle à toutes les fois. Mais il faut que ses joueurs l'aident aussi. Là. Ouais. Mener des deux contre un, des échappés, des tirs parfaits. Dans la nationale, les gars, quand ils sont tout seuls devant le but, là, que ce soit Carey Price, Vasilevski, Bobrovsky, mener le trou, il est là. Ils vont le trouver. Fait que... C'est aucunement de la faute à Bob. Par contre, il peut se reprendre. On sait que le hockey, c'est un sport de momentum. Puis ça peut changer en un match, ça peut changer. Un jeu peut tout changer. Je pense que c'est ça qui est arrivé à Vegas. Le jeu de Cousin, l'arrêt de Hill, a changé le momentum. Là, il faut que les Panthers trouvent un moyen de le mettre à leur avantage.
De pousser ça de l'autre côté. Ouais, mais là, c'est un match qui est à suivre ce soir, puisque s'ils prennent un déficit de 0-3,
non. À 0-3, c'est fini, mais à 2-1, ça peut faire. Ça peut jouer dans la tête aussi des Golden Knights. Là. Adin Hill, c'est pas un gardien qui est excellent. Pour vrai, là, il me surprend, il me fait mentir à toutes les fois, mais ça reste mince. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Là. C'est pas un gardien qui a été dominant toute sa carrière et que. Fait que des fois, il peut accorder un mauvais but, puis ça peut jouer là. Par contre, là, il vient de faire encore un arrêt incroyable sur Duclair qui était tout seul dans l'enclave. Fait que il n'a pas l'air à être ébranlé par le premier but. Mais ça reste à suivre, puis j'espère qu'on va avoir une série quand même en 6 pour qu'il y ait plus de hockey, parce que là, ça va aller au mois d'octobre.
Pas juste ça, là, c'est que je faisais pas partie de ton équipe, là, j'en fais un peu partie. Là, une série finale qui se finirait en 4, je serais très déçu.
Ben, c'est pas bon pour le sport, c'est pas bon pour la Ligue nationale, c'est pas bon pour personne. Fait que, puis les Panthers, on se rappelle que la seule fois qu'ils étaient en finale, ils ont perdu en 4. Fait que, est-ce que c'est la malédiction de la Coupe Stanley? On va voir. C'est à suivre.
Sinon, il y a eu une grosse transaction cette semaine. Alors là, on va sortir
le tableau.
Parce que c'est une transaction d'un défenseur que moi, je qualifie aussi comme étant un top 4. Je sais qu'on s'en est parlé un petit peu brièvement, toi et moi. Là. Mais pour moi, c'est Provorov est un défenseur qui va avoir un rôle capital à jouer. Es-tu prête? Let's go!
Ouais.
OK, fait que là, on y va avec une transaction. Ah, c'est bon, je ne vois pas grand-chose. Attendez une minute, je vais grossir ça. Donc, bon, les Blue Jackets reçoivent Provorov. Si ça ne dérange pas, on va finir avec ça. On va commencer avec les Kings de Los Angeles qui reçoivent Kevin Connaughton, Aiden Hogson et ils retiennent 30% du salaire de Provorov. Les Flyers, là, ça va être quelque chose. Carl Pettersson, je ne me trompe pas, c'est un jeune gardien, lui.
Jeune, ben, ça dépend jeune. C'est, je pense qu'il y a 25, peut-être.
20 ans,
OK. Ouais, je sais pas, mais selon moi, c'est pas lui qui était le joueur targeté dans cette transaction-là. Je pense qu'il allait chercher parce qu'il voulait peut-être un deuxième à Carter Hart, mais je vois pas comme un gardien d'avenir des Flyers. Des Flyers. Je le vois comme un contract dump aussi pour les Kings.
Ah, okay.
C'est plus ça, je pense, pour ça qu'il y a eu des espoirs de donner. Puis c'est pour ça que les Kings, quand tu regardes la transaction, ils n'ont pas reçu grand-chose.
Non, vraiment pas. Mais on va commencer avec les Flyers. Ouais. Sean Walker, ça, ben, à ce que j'en sais, c'est un bon prospect défenseur. Là.
C'est un défenseur de profondeur. Je pense pas qu'il...
C'est pas un top 4.
Non, ça sera jamais un top 4. Puis je pense que ça va être un défenseur de profondeur qui peut aider. Mais encore là, je pense pas que c'est le joueur que les Flyers targetaient dans cette transaction-là. Un autre contrat qui est dumpé par les Kings.
OK. Moi, j'ai une bonne estime quand même pour Sean Walker. Ensuite de ça, j'imagine que ça doit être ton joueur visé, Edge.
LJ Grant. Ben, c'est un très bon espoir, lui. C'est un jeune défenseur suédois. Okay. Je crois qu'il est suédois, je suis pas mal sûr. Mais en tout cas, ça a l'air qu'il est ami avec un espoir des Flyers qui est Tyson Forster. Mais c'est un bon prospect. Là. C'est un top prospect encore dans la Ligue nationale. Fait que je pense que lui, ça, c'est des Flyers qui ont dit si on prend vos contrats, vous allez nous donner du nanan. Puis ça en fait partie. C'est un nanan sur les autres. Là. Le reste aussi, ça venait. Là. Mais je pense que c'est un grand défenseur qui a un bon potentiel.
C'est effectivement un Suédois. 6 pieds 4, 205 livres. Un choix de deuxième ronde en 2020 des Kings de Los Angeles. Il évolue actuellement dans la Ligue américaine.
Ouais, et voilà.
Et puis sinon, après ça, bon, on s'en va avec des choix au repêchage. Là, un choix de deuxième ronde en 2024.
Ouais.
Le choix de première ronde en 2023, c'est un choix qui vient des Kings, si j'ai bien compris.
Non, c'est les Blue Jackets. Ben ouais, c'est le choix des Kings.
Ben,
là, il y en a beaucoup. Oui, c'est ça. Il y en a beaucoup qui voyaient CBG First Round Pick, mais c'est CBG First Round Pick, entre parenthèses, Los Angeles. Parce que là, il y en a plein qui ont dit « Ah, oh, ils ont échangé troisième au total. » Non, c'est pas le troisième au total. C'est le choix qui a été obtenu dans la transaction de Gavrikov et Korpisalo. C'est le choix de première ronde. Fait que dans le fond, Columbus, c'est comme s'il avait donné Korpisalo, Provorov. Korpisalo et Gavrikov contre Provorov. Puis aussi, ils ont reçu un choix conditionnel de deuxième ronde des Blue Jackets. C'est soit en 2024 ou 2025. Il faut qu'ils choisissent avant le repêchage, je sais pas, en tout cas, la condition, c'est un peu bizarre, mais c'est un choix de deuxième ronde quand même dans un an ou deux.
Moi, ce que j'avais lu, c'était après le repêchage de 2023, ils vont.
Ouais, il faut qu'ils choisissent mais je pense que 2024-2025, anyway, avec cette transaction-là, on voit que Columbus veut step up de la cave, comme on dit. Là. Mais le 30% des Kings aussi, c'est quand même. Tu vois que les Kings ont rien. C'est pas une transaction qui est bénéfique pour les Kings de Los Angeles, celle-là. Là. C'est cette transaction-là qui a permis de signer Vladislav Gavrikov à deux ans.
Ah, ça l'a libéré de l'espace.
Oui, exact. Fait qu'eux, ils ont donné des Peterson et Walker pour avoir de la place. Ils ont pris un pourcentage de Provorov de 1,4 million, je pense qu'il faut qu'ils payent.
30%,
mais c'est un salaire de 6,4, fait que ça fait 1,4. Okay. Puis, c'est ça, ils ont reçu des joueurs de la Ligue américaine. Fait que c'est vraiment pour... ils ont fait le ménage dans leur contrat puis ils ont pris une petite partie du contrat de Provorov de deux ans.
Et puis, on termine le tout avec Provorov qui va débarquer du côté de Columbus. C'est un joueur que je sais que toi, tu as haut en estime. Je t'avoue que je l'aime beaucoup aussi. Moi, je trouve que c'est un excellent défenseur. Pas trop vieux non plus. Fait que...
Il a 26 ans.
Ben, c'est ça.
26 ans seulement. C'est un défenseur qui a été choisi 7e en 2015, je crois. Et en 8e, c'est Zach Werenski qui a été choisi 8e. Fait que 7 et 8 sont comme rendus coéquipiers dans la Ligue nationale. On dit que Mike Babcock était très, très, très haut sur lui lors du repêchage. Et lui, il était avec les Leafs en ce temps-là. Mais les Leafs, je pense qu'ils ont drafté Mitch Marner. Je ne sais pas si c'est ce draft-là. Mais ça a l'air que Babcock était in. Fait que sur lui, il était in love. Est-ce que c'est lui qui a dit « j'aimerais ça l'avoir » Je pense pas parce que ça n'a même pas été confirmé qu'il est le coach. Mais j'adore cette transaction-là. Ça envoie un message aux fans, puis aux autres équipes de la Ligue que les Blue Jackets veulent aller au step plus haut. Tu sais, Werenski n'a pas joué de l'année, fait qu'on a, on a comme... l'année prochaine, en recommençant, sinon, on va avoir Provorov et Werenski. C'est deux belles acquisitions.
Est-ce que... mais, est-ce qu'ils sont gauche-droite? Ah, tu ne sais pas, c'est vrai.
Ils sont gauchers, les deux, je crois. Okay. Les deux sont du même bord. Ben, on voit sur la photo que Provorov est gaucher, là, la
marque qui tient son bâton. Des fois, les photos, ça dépend comment.
Ouais, mais j'ai entendu quelqu'un, Anthony Saint-Amand, me semble. Je ne suis pas sûr, mais qui avait dit que les deux étaient gauchers. Fait que techniquement, ils ne joueront pas ensemble. Fait que ça risque d'équilibrer le tout, en fait. Parce que le fait qu'ils ne jouent pas ensemble, ça va être un bon top 4 avec Bogvis. Peut-être qu'Iricek va faire sa place aussi. Mais il n'y a jamais assez de bons défenseurs dans le top 4. Puis là, on en a un vétéran à 26 ans. On s'entend que c'est... il reste 2 ans de contrat. Est-ce qu'il va vouloir rester à Columbus? Je ne le sais pas. Par contre, moi aussi, c'est sûr que là, il y en a plein qui disaient que l'affaire de qu'il n'a pas voulu porter le gilet, ça allait mettre la merde dans le vestiaire. Mais moi, je ne crois pas ça. D'ailleurs, le DG, Jarmo Kekäläinen, a affirmé que lui, c'était un choix personnel, ce qu'il faisait. Ça n'avait pas rapport avec le hockey, c'est de la politique, puis lui, il embarque pas là-dedans. Puis il a dit que s'il voulait protéger sa famille de quoi que ce soit, parce qu'on sait que lui, c'est pas... oui, c'est une religion, mais c'est aussi la Russie qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Fait que moi, je suis quand même très, très, très heureux de la transaction, j'ai hâte de voir. Puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs russes avec les Blue Jackets, Kirill Marchenko, des Yegor Shinakov, Dmitri Voronkov, Daniel Tarasov, des joueurs qui ont entre 20 et 23 ans. Lui, ça pourrait être le papa de ces joueurs-là. C'était Gavrikov qui fait jouer ce rôle-là avant. Là, il n'est plus là. Fait que là, on a Provorov. Fait que j'espère qu'il va signer long terme. Je sais que les deux dernières saisons ont été dégueulasses pour Provorov, mais dans une équipe qui a beaucoup de difficultés comme les Flyers, je ne suis pas inquiet. Je pense qu'il va pouvoir devenir le gars qu'on avait vu il y a peut-être 2-3 ans. Fait que j'ai hâte de voir, ça me donne un boost à la saison. Je sais que la saison n'est pas finie, mais j'ai vraiment hâte que ça commence pour le voir dans, tu sais, avec un autre gilet que le orange. Ça va faire bizarre un peu, mais bon, j'ai hâte de voir.
Là, je regarde sur Daily Faceoff, la projection, c'est Werenski avec Peak, puis Provorov avec Boquist. Fait que c'est intéressant comme top 4 quand même, puis c'est pas trop vieux non plus.
C'est Werenski avec qui, tu me dis?
Werenski avec Andrew Peak.
Ouais, Andrew Peak, c'est ça.
Et Bonquist avec
Provorov. Ouais, ça, c'est si, mettons, Iricek connaît peut-être un moins bon camp ou ils veulent encore le mettre dans une ligue américaine, mais je crois que plus tard, ça va être David Iricek qui va prendre la place, puis ça va être un bon top 4. Mais c'est ça, Provorov, il a juste signé 2 ans. Puis moi, je trouve que ça n'a pas vraiment coûté cher. Un choix de première ronde en 22e au total, sérieusement, c'est quoi les chances que tu vas avoir un défenseur comme Provorov à ce stade-là? Puis rendu là, les Blue Jackets sont plus en reconstruction, sont rendus dans une mode qu'ils veulent finir la finition. Là. Ils sont en train de plastrer, ils veulent peinturer, ils veulent mettre ce beau. Là. Puis, on a quand même un choix qui est 3e au total cette année. Puis on a une banque d'espoir, on l'a dit, on a parlé avec Fred, on a parlé avec James Malatesta, mais c'est aussi Ken Johnson qui est très, très jeune. Sérieusement, l'avenir est beau, puis j'espère que Provorov va pouvoir... rester à long terme avec les Blue Jackets et s'épanouir.
Tu te risques pour une petite projection pour le repêchage 3e total si on va vers qui?
ben moi, j'ai 2 joueurs que je veux. Si ce n'est pas ces 2 joueurs-là qui sont pris, je vais être vraiment déçu. Mais c'est soit Adam Fantilli s'il ne sort pas 2e ou Leo Carlson, le Suédois.
Hey, je m'attendais tellement, parce que tu m'as tellement parlé des Russes avec les Blue Jackets, je m'attendais à Michkov.
Ah, non, ben, parce que Michkov, c'est pas avant 2 ans et demi, 3 ans.
Ouais.
Fait que les Blue Jackets veulent un gars qui va les aider maintenant. Puis Leo Carlson, je pense que dans 1 an, je pense qu'il va jouer à National cette année, mais je sais que le head scout des Blue Jackets, c'est Joseph Boumedien, qui a déjà joué à National, qui est un Suédois. Kekäläinen, c'est un Finlandais. Je sais qu'ils n'ont pas repêché Puljujärvi, mais j'imagine que Leo Carlson est dans leur liste. Puis ils ont dit qu'elle allait drafter un centre. Fait que déjà là, ça enlève Michkov, parce que Michkov, c'est un allié.
Il est un allié, ouais, c'est ouais. Vrai, j'avais oublié, mais c'est vrai, ils ont mentionné.
Fait que ça serait Fantilli, Carlson ou Will Smith, dans le fond. Moi, je pense que Fantilli va être pris par les Ducks. S'il n'est pas pris par les Ducks, ça change la donne. Mais Fantilli ou Carlson, j'adorerais ça. Je serais vraiment, vraiment, vraiment content.
Carlson, il est aussi un centre?
Carlson, c'est un centre, oui.
OK, parfait. Écoute, quelqu'un qui va aider dans l'immédiat une autre organisation qui n'est pas ta meilleure, c'est Cole Caulfield, qui a quand même signé pour un total de 8 saisons à la hauteur de 7 850 000 par année. Une coquette somme de 10 millions en bonus juste pour avoir signé. Et écoute, ça te rapporte, hein, signer un bout de papier quand tu joues dans la LNH, t'avoues. Ouais. Bonne signature quand même, 8 ans, en dessous du capitaine. Je pense que pour un gars qui peut te faire 40 buts dans la LNH, c'est plus que rentable.
Ah, c'est un excellent contrat. Je pense pas qu'il y ait un qui peut dire que c'est un mauvais contrat maintenant. J'ai entendu des gens dire que c'est une aubaine. J'ai de la misère avec le mot aubaine parce qu'une aubaine, normalement, c'est quelque chose qui est pas cher. Là, en sortant qu'il va quand même payer 7,8 millions. Fait que c'est de la place à la masse qui pogne. Mais c'est un excellent contrat pour Cole Caulfield s'il continue comme ça à marquer peut-être 40. Là, j'ai vu du monde qui parlait de 50, 60 buts. Je pense qu'il faut rester quand même. Mettons qu'on se limite à 40 pour l'instant. 40, c'est exceptionnel pour un joueur qui sera 40 buts. Fait que, mettons, on dit 40. S'il sera 50, 60, ça va encore mieux. Mais à 40 buts par année, à un salaire comme ça, c'est un bon contrat. Fait que, Cole Caulfield, je suis sûr qu'il va revenir à 100% avec son épaule et tout. J'ai vraiment hâte de voir une première saison complète enfin pour Caulfield parce qu'il ne s'est jamais arrivé encore une saison complète nationale. Mais, c'est un excellent contrat du Canadien, je pense que. Puis Caulfield a peut-être voulu signer moins haut pour avoir d'autres joueurs meilleurs. Mais j'ai hâte de voir. C'est une hiérarchie salariale un peu avec les Canadiens. J'aime moins ça pour vrai, mais si Kent Hughes veut construire son équipe comme ça, j'imagine qu'il y a un plan et tout. C'est pas nécessairement comme ça que je construirais mon équipe, mais si lui a décidé que c'est comme ça, il y a quand même deux joueurs en bas de 25 ans qui sont signés pour à très long terme. Fait que c'est quand même excellent.
Puis on n'aura pas vraiment le temps d'en parler, le fait que Pierre-Luc Dubois aurait demandé un échange, là, mais ouais. Ça va être difficile quand même de fitter avec l'idée de hiérarchie salariale chez le Canadien. Ça va être difficile de fitter là-dedans à Pierre-Luc Dubois.
Ben, ça va être difficile, surtout qu'on a appris aujourd'hui qu'il visait un contrat en moyenne avec 9 millions par année pour Dubois. Ouais, fait que déjà là, on est 1,2 quelque chose au-dessus. Fait que ça me surprendrait que le gars descende de 1,2 million par année. Ouais. Fait que, puis je suis pas mal sûr qu'il peut l'avoir son 9 millions ailleurs. Fait que je suis pas mal sûr qu'une équipe va y donner.
Il y a des bonnes chances.
Bon, il y a des bonnes chances.
Puis, écoute, Cole Caulfield, quand même, s'il fait un 50 buts à un moment donné, ben, coudon, il va valoir plus qu'à la peine parce que à 7 millions 50 buts, ça serait tout un aubaine. Là, on me dit comme quoi il y aurait quelqu'un qui voudrait parler de justement la signature de Cole Caulfield.
Ah ouais? Qui ça?
Mon oncle Marcel est là.
Hey, bonjour! Comment ça va, la gang?
Ça va bien,
bonjour, toi? Bonjour! Hey, ça Allez, va super! Oncle. Hey, je vous écoutais parler, puis je me suis dit, je vais venir jaser de petit call avec vous autres.
Écoute, hey, sens-toi à l'aise, mon cher.
Ben oui, il faut en parler. Non, attends, excusez, c'est ma femme Micheline. Micheline, là, je suis sur la pitonneuse, puis je parle. C'est pas grave. Correct. OK, on peut continuer, là. Attends, oui, je voulais vous dire que je trouve que moi, c'est une bonne signature, Cole Caulfield. S'il est en santé, je pense que, comme vous disiez, ça peut être une aubaine. Puis moi, je suis sûr qu'il va le scorer, le 50 buts. Oui, oh, je suis vraiment sûr qu'il va le scorer. Ah oui. Hey, avant Martin Saint-Louis, vraiment, je le trouvais moyen. Je pensais que les Canadiens l'avaient échappé. Martin Saint-Louis arrive, boum, 26 buts. En combien de matchs? En combien de matchs? 46? Ouais. Une demi-saison. Tu fais à peu près x2, ça fait combien, ça? Ben, ça fait 52, mon Yves.
Hein? Ouais, ça fait 52, ça.
Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense qu'il va l'avoir, son 52.
Fait que là, à ce moment-là, pour toi, Cole Caulfield est un gars qui va probablement challenger Austin Matthews dans les années à venir.
Ah oh, oui. D'après moi, c'est ça va être un vrai superstar. Même si le monde le considère poids-plume, là. Écoute, comme je le disais, Martin Saint-Louis, il a été poids-plume, puis il s'est rendu jusqu'au bout. Il a tout gagné. Regarde, je pense qu'il est sous une bonne aile, puis il va se rendre loin, le petit bum. Il va se rendre loin.
Puis, est-ce que tu as aimé le call qu'il a fait, Cole Caulfield, qui mentionnait comme quoi ben, c'est déjà beaucoup d'argent. T'sais. Moi, ce que je voulais, c'est signer à long terme. Je voulais rester stable.
Oui, c'est ça. Ben, le monde, il chiale qu'il n'y a personne qui veut jouer à Montréal. Ben, quand on a des jeunes qui veulent jouer à Montréal, pourquoi on ne les signe pas? Pourquoi on ne leur donne pas l'argent? Il est content. Il veut jouer à Montréal. Il aime l'ambiance. Il aime Nick Suzuki. Il aime l'équipe. Il aime tout le monde. Il a le sourire d'en face à tous les soirs.
Ça a l'air qu'il apporte une énergie différente, avec son enthousiasme. Là. Fait que, c'est un gars qui apporte quelque chose dans la chambre, puis qui apporte quelque chose aussi au Kodak, on va se le dire. Là.
Ben oui, certain. Hey, la dernière fois qu'on a eu un corps jeune de même, je pense que c'était avec Pacioretty, Gallagher, Galchenyuk, puis Price. On peut-tu en avoir un nouveau?
Oui, puis ça risque d'être différent parce que là, ton corps n'est pas bâti sur ton gardien. Là. Il
ben,
est bâti
c'est exactement
sur
ça. Exactement. On a du Nick Suzuki, on a du Caulfield. On peut aller même avec Dak. Mm-hmm. Moi, j'irai avec Dak. Puis même le nouveau cinquième choix, je sais pas qui vous pensez que vous allez avoir. Moi, je sais pas si je le serrerai, Mishkov. Non? Avec tout ce qui se passe, j'ai peur.
Mon oncle n'aime pas les Russes, c'est quoi?
Ah, mon oncle, vous savez comment c'est les mononcles, hein? Les mononcles, ils n'aiment pas trop ça, ces affaires-là. Fait que non, moi, j'irais peut-être avec un petit Will Smith, puis s'il est comme l'autre, il va donner des gifs à tout le monde. Bon, de la bataille, ça s'arrête de là. Ah, oui! Hey, dans mon temps, là, la bataille, il y en avait partout.
Oui, oui.
Là.
C'est sûr.
Okay, ouais. Belle référence à Will Smith, ça.
Ah okay. Oui. Mais oui, les jokes, là, il faut en faire.
OK, fait, mais toi, pour toi, Mitchkov, même s'il y a beaucoup de talent, c'est non, on touche pas à ça.
Non, surtout que je pense qu'il faut qu'il finisse son contrat. Ouais. Ça se peut-tu? Ben, ouais, c'est exact. Ça, là. Si ça devient un Romanov numéro 2, moi, j'en veux pas, là.
Ouais, mais si ça vient Kaprizov numéro 2, qu'est-ce que tu dirais de ça?
Ah, ben là, mon oncle, tu vas peut-être te tromper. C'est pas grave. Faut savoir à quoi c'est des fêtes, là, des fois, là.
Ah, oh, c'est sûr. Faut savoir vaincu.
C'est sûr.
J'aimerais ça savoir, mon oncle, tu penses quoi, toi, exactement, de la hiérarchie salariale? Donc, ça veut dire que personne gagne plus cher que Suzuki.
Contrairement à Sam, moi, je suis d'accord avec ça.
OK.
Je suis d'accord avec ça, moi, la hiérarchie. C'est bon, ça. De toute façon, on s'entend-tu que c'est juste 25 000? Il pourrait donner... ça en tranche de pain, puis ça reviendra au même. C'est pareil. Non.
Le pain vaut cher.
Oui.
Tu es achetable, le pain, hein?
Moi, je suis bien d'accord avec ça.
OK. Pour toi, le fait qu'aucun joueur qui va arriver dans l'avenir du côté de l'organisation du Canadien ne peut être payé plus que 7, quelques millions, c'est quelque chose qui est acceptable?
Ben, je pense que oui. Je pense qu'avec les jeunes joueurs qu'on a en ce moment, c'est faisable. Je regarde ça en ce moment. Le prochain contrat qui est à échéance des jeunes... C'est en 2024-2025 de nos jeunes Slavkovski. Non, c'est en 2025-2026. Slavkovski, s'il t'offre jusque-là, s'il y a une bonne saison aussi. Jack High aussi, c'est l'année prochaine. Qu'on est encore bon, je pense que oui. Oui.
On est confortable avec ça.
Oui.
Puis sinon, je veux savoir aussi ton opinion. Qu'est-ce que tu penses de Carey Price? Là? On l'a perdu, puis c'est un joueur qui était emblématique pour l'organisation dans les 10 dernières années.
Oui, c'est ça, comme on parlait tantôt de Core. Bien là, je pense que malheureusement, avec une petite larme sur le coin de l'œil, il va falloir dire adieu à Price. Par contre, en parlant de Core, on a peut-être un petit Samuel Montembeau qui peut s'en venir. Mm-hmm. Ça comme ça, je l'ai vu gauler au championnat de l'IHF. Mm-hmm. Il t'en a gaulé toute une.
Ouais, disons qu'il a été peut-être même le joueur le plus utile, si je ne fais pas erreur, à l'équipe canadienne.
Ben, c'est ça. Fait on peut peut-être bâtir autour de ça. Là. Moi, je pense qu'on peut être confiant aussi niveau goaler. On peut être content niveau à l'attaque. Puis la défense aussi, avec les jeunes qui s'en viennent. Il y a des jeunes partout. On a des jeunes partout ici.
Ça me sort des oreilles.
T'es-tu le genre de gars à penser qu'il faut absolument des Québécois? Parce qu'on parle de Montembeau, là.
Contrairement à ma génération, ouais. Moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Moi, tant que la puck est dans le goal, c'est tout ce qui compte. Moi, si je peux pitcher ma casquette du Canadien quand il score de joie, puis mon chandail le déchirer, moi, c'est tout ce qu'il faut. Ça me dérange pas qu'il parle français, québécois, allemand, russe. Tout. J'ai dit français, québécois, mais.
C'est pas la même chose.
Non.
Non, c'est pas pareil.
Non.
OK, c'est bon, on comprend la logique.
Oui.
Fait, pour la saison qui s'en vient, mon oncle, on en pense quoi de l'organisation du Canadien? Ça fait-tu les séries, ça?
Moi, je pense que si tout le monde est en santé, il faut faire attention. Oui, je pense qu'on peut faire les séries. Je pense pas qu'on se rend loin. Mais je pense qu'avec une organisation jeune, qui a du guts, qui veut jouer, qui a vraiment du fun tout le monde ensemble, on l'a vu avec la saison que le Canadien s'est rendu en finale de la Coupe. On n'avait pas le meilleur club, mais on avait un club qui était assez serré et qui aimait jouer ensemble. Fait que là, je pense qu'on est en train de reproduire la même dynamique. Puis c'est ça qui va nous faire se rendre un petit peu plus loin que cette saison-ci, ça, c'est sûr. Non, ça, c'est sûr que non.
Puis il y a une chose aussi qui est certaine, c'est que dans ton corps, là, tu parles de leadership. Tu as une bromance qui existe entre Caulfield et Nick Suzuki. Et comme tu l'as mentionné un peu plus tôt, Caulfield, il aime Suzuki.
Oui.
Suzuki, il aime Caulfield. Fait que je pense qu'on a probablement un duo qui va être capable de mener cette équipe-là.
Oui. Moi... je suis vraiment confiant en ces deux joueurs-là. J'ai même pas mentionné non plus Caden Goulet tantôt. Je l'ai pas mentionné Jack High non plus. Moi, je pense que ça, il peut y avoir plein de petites bromance qui se... Hey, on est en 2023, là. La bromance, là, ça me va. C'est pas de ma génération, mais je comprends ça quand même. Là. Il peut y avoir à droite, à gauche de la bromance. Tant que mon équipe a gagné, c'est tout ce qui compte.
J'ai quasiment l'impression d'entendre à l'époque de... la Grèce antique, là, c'était ouais, assez ouais, commun ouais. dans l'armée qu'il y avait des rapprochements très forts entre les soldats.
Ah oui, je savais pas. Bon, tu vois, mais il était fort, ces Grecs-là. Bon, tu vois, c'est ça qu'il faut.
En tout cas, on n'ira pas là-dedans. Alors, tout ça pour dire, Mononcle, t'es très satisfait de la signature de Coco Field pour les 8 prochaines années. Est-ce que tu vas arracher ton T-shirt à son 50e but dans une saison?
Non, mais je vais peut-être le faire broder, par exemple. En ce moment, mon jersey rétro, il n'est pas brodé, mais c'est sûr que je le fais broder.
Avec le numéro 22, au moins, tu sais qu'il va rester pour...
Oui, c'est ça. Mon dernier chandail, c'était Weber. Fait que là, j'en ai acheté un nouveau, justement, pour l'occasion. Puis là, ben, il fallait que je me trouve un joueur. Puis j'imagine que ça va être Coco Field, hein?
Yes! All right! Ben écoute, un grand merci d'avoir appelé, mon cher Mononcle.
Ben, un gros merci à vous autres. J'espère que... Hey, elle est fun, cette petite ligne ouverte-là. Je vais peut-être t'appeler.
Hey, tu repasses quand tu veux, mon cher.
Ben oui!
Passe une bonne soirée, là.
À la prochaine!
À la prochaine! All right, Sam! Écoute, là, le match, il est combien en ce moment entre les Panthers et les Golden Knights?
C'est 1-0 encore. Il reste 4 minutes 50 en première. C'est 4-2 les shots pour les Panthers. Sauf que là, j'ai cru voir que Mathieu Tkachuk s'est fait visser en plein milieu de la glace par Keegan Colazar. Puis qu'il ne reviendra pas dans le match, je crois. Possible commotion cérébrale, probablement. Fait que c'est à voir. Ça ressemblait au mise en échec de Jack Eichel, mais là, j'ai comme une vue une reprise. Fait que, mais c'était le gilet rouge. Fait que c'est sûr que c'est un match à domicile. Puis c'est Colazar. Fait que c'est quelque chose qui est arrivé dans le match. J'espère que on a vu le soigneur parler à Paul Maurice en disant ça. Fait que souvent quand le soigneur va dire de quoi, c'est pas très bon parce que normalement le joueur revient. Fait que là, j'espère que qu'il n'y aura rien parce que là, super Tkachuk, je pense pas que tu peux pas survivre, mais tu peux gagner. Tu peux pas gagner sans Mathieu Tkachuk. Fait que Keegan Colazar, en plus, un joueur qui a été repêché par les Blue Jackets. Fait que, j'espère qu'il va revenir, puis j'espère que les Panthers vont réussir à gagner au moins un match. Tu sais, des fois en série, des commotions, tu vois deux doigts. Genre, je t'en montre deux, t'en vois trois, t'es correct.
Tu peux y aller.
Ouais, tu peux y aller. Parce que Radko Gudas est en uniforme ce soir. Hey, il avait pas l'air d'un gars en forme la
game. Oh, yeah, il avait l'air d'avoir été.
Fait que, peut-être que si les Panthers gagnent, il va pas revenir, mais c'est une situation à suivre pour Mathieu Tkachuk.
Et là, pour clore la finale de la Coupe Stanley, moi, je tiens à lancer un shout-out au responsable des communications des Golden Knights qui a publié une publication sur Twitter où il mentionnait « Et les Golden Knights choisissent des Panthers de la Floride, Jonathan Marchessault. » Merci, bonsoir.
Ouais, ben le gars des Golden Knights, c'est arrogant, c'est cocky. C'est pas une équipe que j'aime, mais il faut quand même que je sorte de ça et d'être objectif, puis c'est drôle. C'est quand même assez drôle. Je sais que les Blue Jackets sont un peu arrogants aussi comme ça, mais tu sais, contre les Oilers, ils avaient fait... les Oilers étaient comme « We're gonna take this game tonight », puis les Golden Knights avaient comme mis un L là, pour lose, puis ils disent « Go take that », or... C'était... c'est arrogant, c'est cocky, mais en même temps, ça fait pogner, puis... Combien de gens sur Twitter qui ne connaissent pas tant le hockey voient les affaires de même, puis c'est juste bon, ça fait parler. Fait que, puis tu sais, ça fait partie de la game avec cocky. Je veux dire, j'aime pas les Golden Knights, puis je dis que c'est quand même bon. Là. Mais c'est vraiment drôle parce que c'est contre les Panthers en plus, puis Marchessault est avec des Panthers, puis il est en train de... Il va probablement gagner Conn Smythe. Fait que,
puis en plus,
tout est dans tout.
Pour mentionner que les Panthers avaient transigé pour s'assurer qu'ils choisissent.
Ouais, c'est ça.
Fait que c'est quand même.
C'est ça, ils voulaient absolument qu'ils. Oh, et là, c'est 1-1. Oh. Mark Stone. Tu ne seras pas surpris que c'est un but en avantage numérique sur une punition assez douteuse, mais c'est 1-1.
La petite blague chez les arbitres avant de partir. Merci, bonsoir. All right.
Pourquoi pas.
Ben, merci beaucoup. Écoute, on suit ça avec beaucoup d'attention, le match de la série finale. Si c'est 0-3, ça devrait être fini. Sinon, je vous invite à nous suivre sur le alacoupe.ca pour le repêchage de la LHGMQ qu'on va couvrir. Sam, je te souhaite une belle fin de soirée et on se revoit très prochainement.
À toi aussi, madame.
Ciao. Pour vous à la maison, eh bien, je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes, toujours au nom de À la Coupe. Alors, on est disponible sur Spotify, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, toujours au nom de À la Coupe. Et ici, que nous suivre sur le alacoupe.ca, on a des textes régulièrement, dont entre autres le repêchage de la LHJMQ, qui sera couvert par notre équipe de la LHJMQ. Alors, c'est à suivre sur nos différentes plateformes cette fin de semaine. Sinon, je vous invite aussi à écouter la notif des sportifs à tous les mardis midi, animée par Loric Salvaille. N'oubliez pas, pour votre bière hockey, L'Amont Minou de la microbrasserie Le Caveau des Trois Pistoles, partenariat avec À la Coupe. Je vous dis un très grand merci d'avoir été là et je vous souhaite une belle fin de soirée. Prenez soin de vous. Bye bye.